Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut à tous, on est bien dans Vacarment Réunion. Cette semaine, je suis avec Hector et on est en direct. Donc, on va pas trop parler d'actualité, puisque comme tout le monde a bien écouté notre émission un peu folle de la semaine dernière sur la manière de se présenter, de se préparer pardon, au mouvement social là, qui commence à arriver doucement, et ben, comme tout le monde se prépare un peu discrètement à ça, il s'est pas passé grand-chose. Du coup, on va passer directement à la présentation d'un petit concert qui va avoir lieu le week-end prochain, et puis ensuite, on va parler de prison. Et pour finir, la boîte à outils, cette semaine, elle sera consacrée à comment baiser dans un parloir. Voilà. Bon, du coup, pour commencer, je vais revenir sur un concert qui a lieu le samedi 7 décembre aux Tanneries, qui est un concert en soutien pour la Caisse de solidarité dijonnaise contre la répression. Et du coup, on va pouvoir entendre Miss Wretched, je sais pas trop comment on prononce, et Emma Pills. Donc Miss Wretched, c'est un groupe de punk qui vient de Lyon, et Emma Pills, un groupe de hardcore punk également qui vient de Paris. Et c'est marqué sur l'affiche « plus guest », et on n'a pas réussi pour l'instant à en savoir plus du coup sur ces guests. Du coup, on voulait un peu réexpliquer qu'est-ce que c'était ce soutien à la Caisse de solidarité dijonnaise contre la répression. La Caisse de solidarité, c'est une association, un collectif de gens qui sont plus ou moins en association, quoi, qui essayent de s'organiser pour trouver de la thune et répondre un peu pratiquement, stratégiquement aux problèmes qui sont posés face à la justice et face à la police et face à la prison. Et du coup, le but de ce collectif-là, c'est d'essayer de faire se rencontrer, puis de même rencontrer quoi, des gens qui ont des problèmes avec la justice, qui se retrouvent en emmerde, parce qu'il y a un contrôle de police qui a dérapé, qui se retrouvent accusés d'outrage et rébellion, qui refusent de donner leur ADN, ou encore mille situations qu'on peut imaginer, quoi. Et du coup, de rencontrer un peu ces gens-là, et de faire se rencontrer tous ces gens-là, pour que toutes les infos... sur les techniques de résistance et de face à la justice et face à la prison, elles puissent être mises en commun et qu'on puisse réfléchir un peu à tout ça ensemble. Et puis la caisse, elle essaye aussi du coup de faire de la thune pour payer les avocats ou pour envoyer des mandats en prison. Voilà, rien à rajouter à Hector.
Non, c'est parfait comme présentation.
Et voilà. Et du coup, le concert de soutien du 7 décembre, l'entrée est à 5 euros. Et la thune du coup, qui sera gagnée ce soir-là ira à la Caisse de solidarité, sûrement pour envoyer des mandats en prison ou pour payer des avocats. Et c'est, y a un deuxième événement aussi là, dans les 10 jours qui viennent pour soutenir la Caisse de solidarité. Le 10 décembre, il y a un repas, pareil, un repas de soutien qui va être organisé au Chez Nous, du coup, qui est dans l'impasse Quentin, en centre-ville. La petite impasse là, qui est juste à côté des Halles. Et du coup, il y a un repas de soutien ce soir-là. Pareil, la thune elle va être envoyée à des gens qui sont enfermés en ce moment à la maison d'arrêt de Dijon par mandat. Voilà. Hector, peut-être tu nous parles de la prison, du coup.
Alors, cette semaine, on voulait un peu dédramatiser la prison. La prison, c'est pas juste un univers morbide où on est isolé, enfermé, en contact avec rien d'autre. En fait, il y a toute une manière d'envisager la situation dans laquelle on est. Et ça influe énormément sur ce qu'on arrive à y développer, la manière dont on prend les choses. En fait, ça peut permettre de développer de nouvelles choses à l'intérieur de la prison. On voit qu'il y a toute forme de solidarité et tout un tas de débrouilles qui naissent dans ces conditions un peu spéciales de vie, quoi. Alors on va commencer par lire un court texte de Roberto Assagioli, C'est le fondateur de la psychosynthèse. Mais il est connu pour ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a participé à la guerre d'Espagne dans le camp des anarchistes. Et il a été emprisonné en 1938. Et il écrit ce texte qu'on va lire là, pendant qu'il est en prison, sur la manière dont il peut envisager son rapport à la prison.
Je réalisais que j'étais libre d'adopter une attitude parmi plusieurs vis-à-vis de la situation, de lui accorder une valeur ou une autre, de m'en servir d'une façon ou d'une autre. Je pouvais me révolter intérieurement et maudire la situation, ou je pouvais m'y soumettre passivement, végétativement, ou je pouvais m'attarder au plaisir morbide de l'apitoiement et prendre le rôle de martyr, ou je pouvais prendre la situation sportivement et avec un sens de l'humour, la considérant comme une expérience nouvelle et intéressante. Je pouvais en faire une cure de repos ou une période de pensée intense, que ce soit sur des questions personnelles, revoir et évaluer ma vie passée, ou sur des problèmes philosophiques et scientifiques. Ou je pouvais tirer profit de la situation pour entreprendre un entraînement psychologique personnel. Ou enfin, je pouvais en faire une retraite spirituelle. J'ai lu la perception pure et claire que c'était entièrement ma propre affaire, que j'étais libre de choisir l'une ou plusieurs de ces attitudes et activités. Parce que ce choix aurait des effets inévitables que je pouvais prévoir et dont j'étais pleinement responsable. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit quant à ce pouvoir et à cette liberté essentielle et à leurs privilèges et responsabilités.
Alors, on voit qu'il y a tout un tas de manières possibles d'imaginer la prison. Nous, on a cherché quelques textes, on a trouvé différents récits, différents témoignages de passage en prison. Alors, on se souvient d'une interview de Julien Coupa. Julien Coupa, il était emprisonné en 2008 pour une affaire de sabotage contre la SNCF sous procédure antiterroriste. Et il a fait une interview en mai 2009 dans le journal Le Monde. Alors la question qu'on lui pose, c'est « Comment vivez-vous votre détention ?» Lui, il répond « Très bien, merci, traction, course à pied, lecture. » Donc on voit que ça, voilà, il est détendu par rapport à ça. Et un peu plus loin dans son interview, il va rajouter une phrase, je cite « Surveillant, cantine, partie de foot dans la cour, emploi du temps, division, camaraderie, baston, laideur des architectures. Il faut avoir séjourné en prison pour prendre la pleine mesure de ce que l'école de la République contient, par exemple, de carcéral. » Alors là, on voit que la prison, en fait, ça lui évoque un peu l'école, quoi. Il y a tout un tas de similarités et il fait un lien avec l'extérieur. Il y a quelque chose qu'il a déjà vécu quelque part de l'enfermement carcéral. Il y est peut-être déjà un peu préparé par l'école.
Ouais, peut-être pour dire que si on a envie de parler de tout ça, c'est pas du tout pour dire que en fait c'est hyper tranquille la vie en prison ou je sais pas quoi, qu'il faut durcir. S'il y a des gens qui connaissent pas notre émission, je sais pas, mais qu'il s'agit beaucoup plus de, je sais pas, de dire qu'en fait il y a des formes de résistance partout, qu'il y a des trucs à trouver, des brèches, qu'il y a de la force à trouver, et du coup d'essayer d'envoyer un peu de cette force-là aux gens qui peuvent nous écouter en ce moment à la maison d'arrêt Dijon, ou aux gens qui risquent d'y passer, ou aux gens, etc., quoi.
Et ouais, d'ailleurs, ça, je pense, c'est un peu une provocation par rapport à ce qu'on essaye de détruire en emprisonnant, quoi. Il y a quelque chose de mental à tenir, et tant qu'on tient et qu'on arrive à renvoyer en face des choses comme ça, c'est qu'ils n'ont pas gagné en face, quoi. Alors, il y a aussi un texte qu'on voulait lire, qui est un extrait du livre « Les yeux en face des trous » de Henri Vincenot, où il parle d'un passage en prison. Alors je vais lire, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où lui il est engagé dans l'armée française et il se fait emprisonner par l'armée allemande. Alors il dit « Et j'étais parti vers l'Allemagne de l'Est, seul entre deux gendarmes, Felgrau, premier prisonnier de la guerre, nageant en plein cas particulier. » Hélas, je ne fus pas longtemps seul, et aussitôt que j'eus des compagnons, je m'évadai. Je ne pouvais supporter cette collectivité dans la captivité. Deux fois prisonnier en quelque sorte. Une fois par les ennemis, une autre fois par les coprisonniers devant lesquels il est bon ton de jouer la grandiloquente comédie du Prométhée enchaîné, de la bravoure trahie, de l'espoir sacré, et surtout la comédie farce de la revanche passive et autres snobismes de la fausse virilité. qui ne voudront jamais le beefsteak de la resquille et le beurre du faux double jeu. Alors là, il parle de quelque chose qu'on retrouve en prison, d'un espèce de rôle qu'il a joué. Où, là, le rôle qu'il a été obligé de jouer, c'est une espèce de dramatisation de la prison. Et en fait, son évasion, elle est motivée par cette envie de fuir cette espèce de rôle-là qu'il a joué. Et c'est pas forcément la prison en elle-même qui le motive à s'évader, mais c'est aussi toute la pression qui est créée par cet environnement carcéral. Ce qui est intéressant aussi dans ce bouquin, c'est qu'il raconte tout un tas de choses qu'il fait après son passage en prison, dans des usines, des camps de travail en URSS, etc. Et il compare toutes ces formes qui sont en quelque sorte carcérales. Pour lui, en fait, c'est des formes différentes d'un même enfermement ou d'une même soumission. Et ce qu'on appelle le progrès pour lui, avec il cite par exemple une usine dans laquelle il travaille. Alors, je vais vous lire un petit extrait où il dit « Tout y marchait à la sonnerie et aux signaux lumineux, même les douches et le fumoir. Là aussi, travail en masque et en gants d'amiante. Les WC surtout étaient formidables. On se serait cru dans une salle d'opération. » Bien entendu, douche obligatoire, cinéma culturel où l'on pouvait même choisir sa place et conférence anti-alcoolique. Un charmant petit journal d'établissement donnait les chiffres atteints par la production de la maison et les comparait à ceux des établissements similaires. Il donnait également les noms des ouvriers qui avaient été trouvés en état d'ébriété, la liste de ceux qui avaient dépassé les normes, sans oublier de signaler, mais uniquement à dessein de les encourager, ceux qui n'avaient pas réussi à les atteindre. Le dimanche, des artistes venaient chanter et danser. D'éminents conférenciers faisaient des cours sur la productivité et au beau jour, on pouvait se baigner dans une piscine en mosaïque aux heures prévues. Il y avait de belles filles et des visites anti-vénériennes, gratuites bien entendu. Pour les enfants, une crèche, comme on dit en France, où mes chers petits recevaient des soins tellement parfaits qu'on se demandait à quoi pouvait bien servir leur famille. C'est en me promenant aux heures de détente que la colère que je sentais monter en moi depuis les États-Unis prenait la forme discursive et éclatait aussitôt que parler à haute voix était autorisé. J'évoquais avec émotion un pays semi-inculte et bocager, où une race un tantinet négligente et légèrement décadente partageait son temps entre le maniement d'outils rudimentaires, forgés par des générations de pas pressés, et le canon de piccolo qu'on sirote en se tapant sur les cuisses. J'imaginais des collations sous les arbres avec pâté de tête, cancoyote et couteau de poche, des séances de débardage de bois entrecoupées de siestes, fort préjudiciables, certes, à une vague productivité collective, mais si sûrement profitable à la santé de chacun. J'imaginais des maisons basses avec un amour de petit fumier, sanctuaire d'un laisser-aller plus rationnel qu'il n'y paraît. Alors là, lui, ce dont il rêve, c'est une espèce de vie à la campagne un peu bucolique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même dans des conditions soi-disant idéales, avec tout ce qu'il y a de progrès dans une usine pour s'y sentir bien, en fait, les conditions, elles sont un peu aliénantes, comme les conditions carcérales, où cette espèce d'aseptisation, de neutralisation, avec tout est prévu pour que tout qu'on se sente bien dans cet environnement, en fait, on se rend compte que les gens, ils rêvent d'autre chose et que c'est pas vraiment le paradis, cette manière de vivre là. Alors, y a quelqu'un d'autre qui parle de la prison, qui est Jules Vallès, qui a écrit L'Insurgé. Jules Vallès, c'était un journaliste du 19e siècle qui est assez connu parce qu'il a été élu pendant la commune en 1871 à Paris. Alors lui, il est passé par la prison de Saint-Pélagie. C'est une prison très connue dont on va parler un petit peu plus tard. Alors je vais vous citer la première partie du texte où il raconte son arrivée en prison. Il commence par décrire son arrivée dans une pièce qui s'appelle le Petit Tombeau. Les cellules, elles avaient des noms dans cette prison-là. Alors, il raconte « J'habite le petit tombeau. C'est, au haut de la prison, une chambre étroite et triste. Mais en grimpant sur la table, on arrive jusqu'à la fenêtre. Et, de cette fenêtre, on voit la cime des arbres et une grande bande de ciel. Je passe des heures entières la tête contre les barreaux, à humer la fraîcheur du vent ou à recevoir sur le front ma part de soleil. Cette solitude ne m'effraie pas. Souvent même, je plante là 89 et 93 pour me trouver simplement en face de moi et poursuivre ma pensée, blotti dans un coin de la cellule ou baignant dans l'air libre au-delà de la croisée grillée. Cette captivité n'est point pour moi la servitude, c'est la liberté. En cette atmosphère de calme et d'isolement, je m'appartiens tout entier. Alors là, il y a quelque chose d'assez paradoxal, parce qu'il est en train de raconter que cette captivité, pour lui, en fait, c'est une forme de liberté. C'est un peu ce que Roberto Assaggioli il racontait au début, c'est qu'on peut prendre l'enfermement comme en fait quelque chose qui permet d'envisager autrement la manière dont on vit pour une période, quoi, où Roberto, il n'hésitait pas à dire que ça pouvait être une expérience de réflexion personnelle ou je sais pas quoi. Et là, Jules Vallès, il a l'air de le prendre un peu comme ça. Alors, il est resté quelques mois dans cette cellule et il a été transféré ensuite dans une autre cellule qui s'appelle le club. Parce que là, c'est une cellule qui est un peu plus au cœur de la prison. Et... Il raconte son arrivée dans cette cellule. Ce calme-là a été tout troublé parce que des vides se sont produits. J'ai été appelé à la chambre d'honneur qui a été envahie et que j'ai laissé envahir de bon cœur. Mon logis est devenu le salon, la salle à manger, la salle d'armes et le club de la prison. On en fait un tapage là-dedans. Alors là, on va commencer à raconter... ce qui se passe dans la prison de Sainte-Pélagie. En fait, il y avait tout un tas de prisonniers politiques qui s'y retrouvaient. Et il y a Jules Vallès qui s'est retrouvé au milieu de ces prisonniers politiques dans ce qui est appelé le club, dans sa cellule. Et en fait, qui se retrouvera être le lieu de rendez-vous de discussion politique. Alors, on va passer à une petite musique... avant que je vous parle plus précisément de Sainte-Pélagie. C'est une musique de Johnny Cash qui s'appelle Folsom Prison Blues, donc, qui parle de la vie dans cette prison, qu'il a joué en live dans cette prison-là.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling all down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Thank you.
Voilà, c'était Folsom Prison Blues, joué par Johnny Cash à la prison de Folsom. Alors, on allait parler de la prison de Sainte-Pélagie.
C'est vraiment un prénom magnifique d'ailleurs, Sainte-Pélagie. Quoi.
Ouais,
tu
ouais,
sais, l'histoire un peu. C'était une sainte, quoi.
Ouais, ouais, c'était une sainte du 4e siècle, mais je connais pas très bien son histoire.
D'accord. Je pense peut-être que ça fait référence aux oiseaux pélagiques, non? C'est les oiseaux qui arrivent à survivre dans l'océan là où rien ne survit.
Les oiseaux pélagiques, ils sont venus... c'est la sainte qui a donné le nom aux oiseaux, je pense. C'est plutôt dans ce sens-là.
D'accord.
En tout cas, elle s'appelle la prison Sainte-Pélagie parce que c'est un monastère qui était dédié à Sainte-Pélagie qui est transformé en prison à partir de 1792. Et... à partir de 1831, ça devient une prison politique. Et donc, dans cette prison, il y a des gens très connus qui vont se croiser.
Comme des prisonniers politiques, quoi. Tu continues une prison politique.
Ouais, ouais, que des, voilà, des prisonniers politiques. Donc, il y aura Élisée Reclus, qui est un géographe anarchiste, François-Louis Arago, astronome, qui a été un des plus fervents acteurs de l'insurrection de 1848, et son frère, Étienne Arago. Gustave Courbet, qui est un artiste qui est connu pour avoir mis la colonne Vendôme à terre pendant la Commune. La colonne Vendôme, c'était un peu le symbole de l'Empire.
C'est comment il a fait pour la coucher ?
Bah, c'est lui qui a décidé de sa destruction. Après, ils ont.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Voilà, il y a des gens qui se sont occupés de ça. C'est pas lui tout seul qui l'a mis à terre.
En poussant dessus.
Il y a aussi François-Vincent Raspail qui est passé par cette prison, qui a été un des acteurs de l'insurrection de juillet 1838. Pierre-Joseph Proudhon, qui est très connu. Gérard de Nerval, l'écrivain. Auguste Blanqui, le célèbre révolutionnaire qui a consacré toute sa vie à l'insurrection et qui a d'ailleurs passé 30 ans de sa vie en prison. Et Jules Vallès, dont on parlait tout à l'heure. Alors Jules Vallès, il a dit quelque chose de cette prison qui est assez significatif. C'est « On était libre de tout dire après avoir été condamné pour n'avoir presque rien dit ». Parce que cette prison, elle servait beaucoup. Il y avait beaucoup de prisonniers politiques à cette époque-là, par rapport à des délits de presse. Où, dès qu'il y a quelque chose qui rentrait pas dans les règles de la presse, on envoyait des gens en prison assez rapidement. Et il s'avérait que dans cette prison, il y avait une liberté assez grande, parce que dès 1832, donc un an après que ça devienne une prison pour prisonniers politiques, il y a une révolte qui a éclaté dans la prison, menée par Blanqui d'ailleurs, qui a fait un mort. C'était une très grosse révolte.
Mais et tous les gens que tu citais tout à l'heure, ils étaient dans la prison en même temps ?
Enfin, c'est non, des gens qui non sont... ils sont passés tout au long du 19e dans cette prison-là.
D'accord.
Et il y en a beaucoup qui se sont croisés, quoi. Proudhon, par exemple, il s'est même marié dans cette prison avec Euphrasie Piéjard. Et voilà, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Mais ça, c'est grâce à une révolte qui a été menée en 1832. Et à partir de ce moment-là, les prisonniers politiques ont réclamé des droits à l'administration de la prison. Et ils ont été logés dans ce qui s'appelle le pavillon des princes. Ça laisse deviner l'aspect du pavillon. À partir de ce moment-là, la circulation était libre entre les cellules. Tous les prisonniers pouvaient aller se rendre visite n'importe quand. Il n'y avait pas d'isolement et les visites extérieures étaient possibles n'importe quand. Et comme ça a été gagné grâce à des luttes très importantes, et comme les gens qui rentraient dans cette prison étaient des gens assez connus et comme un peu qui faisaient un peu peur, quoi, à l'État, à l'administration et tout ça, on n'osait pas restreindre trop les règlements.
Et c'était des revendications qu'ils ont posées quand il y a eu la révolte,
par exemple, ouais, ils ont demandé à ce qu'il y ait des visites n'importe quand. Voilà. Et dès que l'administration en fait essaye de resserrer un petit peu le règlement, il y a des nouvelles mutineries. Alors du coup, cette prison, ça devient une espèce de salon politique au plein cœur de Paris, où il y a des enchaînements de réunions politiques, des discussions toute la journée. Et il y a un peu deux groupes qui se forment au fur et à mesure de l'histoire de cette prison. Les bonnets verts contre les bonnets rouges. Les bonnets verts, c'est plutôt des légitimistes. qui contestent le pouvoir, mais voilà, qui se fondent dans la forme. On peut pas appeler ça démocratique à l'époque, mais républicaine, etc. Et les bonnets rouges, c'était plutôt les communalistes qui prônaient plutôt une insurrection armée. Donc il y a de forts échanges entre ces groupes-là et on assistait des fois, ils en venaient même aux mains des fois. Et en 1834, il y a eu une nuit d'émeute qui a été organisée par une société qui est liée aussi à Blanqui, à Raspail, à tous ces personnages qu'on a cités. Et ça a été un assez gros massacre, il y a beaucoup de gens qui sont morts, et il y a 164 personnes qui ont été emprisonnées à Saint-Pélagie. Et ces personnes-là, en fait, dès leur arrivée, elles préparent leur évasion, et l'année d'après, en 1835, elles s'évadent grâce à un tunnel qui rejoint un hôtel particulier derrière la prison, et il y en a 28 d'entre eux qui arrivent à sortir. Ils n'y arrivent pas tous, mais c'est quand même... Cette prison, elle était réputée pour être une forteresse imprenable. Et en fait, il y a quand même 28 prisonniers qui ont réussi à partir en une nuit. C'est assez notable. Et voilà, par rapport à toutes ces discussions politiques, il y a Alexandre Dumas qui a dit sur Sainte-Pélagie que cette prison, elle finit par ressembler en mieux à un quelconque bottin mondain. Un bottin, à l'époque, ça veut dire une autre société, quoi. Donc, voilà, on voit que à travers des luttes, une pression qui est menée, voilà, ils lâchent jamais rien. Les prisonniers ont jamais rien lâché à l'administration. Ils ont toujours contesté tous les règlements qu'on a essayé de leur mettre. Ils ont réussi à s'octroyer une liberté assez folle qu'on n'imaginerait pas dans nos prisons aujourd'hui, quoi.
Mais avec des exemples plus contemporains, enfin plus actuels, je sais pas, on a lu cette semaine que la moitié des centres de rétention en Italie, ils étaient fermés en ce moment, et qu'il y avait, on en entend assez peu parler en France, mais il y a une espèce de grande lutte contre les centres de rétention en Italie, et qui est surtout menée dans les centres de rétention par les gens qui sont retenus, quoi. Et je pense, tu parlais d'une évasion massive là, de 28 personnes, mais... On a lu cette semaine qu'il y avait une ville en Italie, je ne me souviens plus de quelle ville, où il y avait une trentaine de personnes qui avaient réussi à s'échapper, enfin à s'évader en une seule fois, quoi, du centre de rétention. Et qu'en fait, il y avait certains centres de rétention en Italie où ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ça, il y a jusqu'à la moitié des prisonniers constamment qui réussissent à s'évader, quoi. Et puis non seulement à s'évader, et en plus à détruire certains quartiers à l'intérieur des centres de rétention. Et c'est ce qui entraîne le fait qu'aujourd'hui il y en a la moitié des centres de rétention qui sont fermés, quoi. C'est qu'il y a des quartiers entiers dans des centres de rétention qui ont été complètement défoncés par les condamnés, quoi. Enfin, les condamnés, les retenus.
Ouais, ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On se souvient que quand le centre de rétention de Vincennes avait brûlé, après, il n'y avait pas eu d'arrestation de sans-papiers pendant 6 mois, parce que juste, ils n'avaient plus de prison pour eux. Enfin, donc c'est quelque chose qui est vraiment effectif. Alors pour revenir à Sainte-Pélagie, elle a continué à accueillir des prisonniers politiques jusqu'en 1898, et à ce moment-là elle a été fermée, et c'est le moment où ont été ouvertes les prisons de la Santé et de Fresnes. Alors la prison de la Santé, on va en parler un peu, parce qu'on va lire un passage d'un texte de Jean-Marc Rouillant qui est passé dans cette prison dans les années 70. Et en fait, on se rend compte que dans les années 70, à la Santé, il y avait une atmosphère qu'on peut rapprocher de l'atmosphère qu'il y avait à Sainte-Pélagie au 19e, où tout un tas de prisonniers se croisent, s'organisent ensemble. Donc avant ça, on va écouter un petit morceau de rap de 113 qui s'appelle Mutinerie.
On baise les matons, les serrures et les menottes, prends note. Tu me diras à chacun d'assumer, hein. On s'assoit pas un poker si on n'a pas de quoi suivre. Des années inactives comme activité principale. Couper ses oignons en tranches fines. Socialement un peu pénible, rien à se mettre sous les dents à part une roulée, une gitane de maïs ou son pénis. Le cash tombe dans les rations, relation zéro avec les matons. On aimerait frapper un baron. Les voir finir au service de réanimation, 10 ans sans courrier, 10 ans d'isolement. Derrière les murs, aucun espoir pour les déballeuses de comptoir. Personne n'est arrivé sur terre naturellement. Dépendant des aides sociales, la cam personne est née. Comment on arrive là, ce qu'on saucissonne. Des coups de perceuse dans les genoux, des joues les caméras de surveillance. Puis grave du bicarbonate de soude. Plus de 40, plus de meurtres, plus de cris pour encore plus de sous. Venez calmer à plus de 4 avec vos gros chats. J'ai des poteaux qui bousillent la vie, même avec un épluche patate. Pour insérer les dollars que dalle. Des deux côtés du mur, une fois sortir, on part à zéro. Comme passeur dans Jacques, on est stup, la mule. Trouve refuge auprès du Seigneur, dans les filières. Avant de bosser au Hebs pour 200 euros comme auxiliaire. T'es un dur, toi, non, du système, t'es qu'un pantin. On t'a tous vu chialer dans le box. Comme Bertrand Cantat, nouvelle ère jacteuse. Bonhommes se font rares, se recyclent dans le vol d'objets d'art. Arrache les distributeurs à la pelleteuse.
Filoche les dabis, 8 du mat, tu te lèves, t'as ta piste. C'est un tuyau percé, alors t'attends qu'on t'assiste. Respecte au pas selon l'étage, le code postal. Pour espérer être tranquille, passe un coup de fil au portable. Tout le monde dira que le meilleur, la prison, c'est le bon de sortie. Évite la case, ça laisse des cicatrices. Les mecs bizarroïdes, les chiottes bouchées, les hémorroïdes, toujours la même chose. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis deux semaines, pareillement vêtu. Un coup de pouce de ton co-détenu, des cauchemars, tout âge confondu. Tu ressors bossu, tu ressors tendu. Les fouilles la nuit, les barbelés autour de l'esprit. Ta fenêtre, c'est la télévision. La nuit, t'entends chaler des lopettes. Pendant que tu te branches sur Jennifer Lopez. Évacue ta rage dans des salles de sport. Tu te prépares au jour où on dira tu sors. Un parloir, un morceau de miroir, un big rasoir. Un minimum de tenue à la maman qui vient de voir. Quelques moments tendres, une décharge d'émotions que seul un taulard peut comprendre. Purge sa peine, coupé du monde assume. Aucune chance d'évasion, les suites secours pour les plus faibles suicides.
Le juge t'indique de la fermer, de t'asseoir. Encore heureux que les prisons soient des passoires. Connard, cambrioleur à n'importe quelle heure. Meurtrier d'un soir, voyons notoire, futé au barbare. Trop vite, un casse-tour, mal, grosse brigade, garde avec jugement, le verdict, 10-15 ans dans les dents, arrivant en brigand, parlant sombrage, véridique, vécu par les poteaux, l'entourage, ils rentrent, sortent, mais savent pas à quel âge, mineur, adolescent, trafiquant récent, les réseaux qui peuvent le vouloir, les bruits de porte qui résonnent dans le couloir, c'est mitard, c'est hardcore, c'est la prison.
Le juge t'indique de la fermer, de t'asseoir, encore heureux que les prisons soient des passoires, connard, cambrioleur à n'importe quelle heure, meurtrier d'un soir, voyons notoire, futé ou barbare.
Ok, alors maintenant on va parler de la prison de la santé et ben, je peux élargir un peu là pour rappeler ce qui se passait dans les années 70 autour de la prison. Il y a eu énormément de mutineries dans les prisons françaises et tout un tas de révoltes, de prisons qui brûlent, de prisonniers qui ont écrit des manifestes. Et pour illustrer un peu cette époque-là, on va lire un extrait d'un livre de Jean-Marc Rouillant qui s'appelle « De mémoire, la courte saison des garis », qui, voilà, qui est les mémoires de ses premières années dans les groupes politiques. Jean-Marc Rouillant, il est surtout connu pour avoir fait partie de... pour avoir été membre d'Action Directe, mais avant, il a fait partie de tout un tas d'autres groupes politiques. Et il a été emprisonné pour des actions faites avec le GARI, qui est un groupe d'action qui s'est créé après l'arrestation d'une personne du MIL, qui était un groupe armé espagnol, et qui a été garrotté. Donc le GARI, il faisait juste des actions de solidarité par rapport à cette arrestation-là. Et Jean-Marc Rouillant, il s'est fait arrêter dans ce cadre-là après les années 70. Et voilà, son récit, c'est l'ambiance qu'il y a dans les quartiers isolés de la prison de la santé.
Une légende militante raconte que, lorsqu'on bénéficie du statut de prisonnier politique, on est coupé des détenus de droit commun. Il faut ignorer toute la prison pour raconter une telle bêtise. Au contraire, notre changement de statut fut l'occasion d'une plus grande connivence avec la détention. Comme on pouvait circuler librement, et en particulier aller à la douche quand on le voulait, on est devenu des piliers des réunions des DPS près des lavabos. Avec les promenades, le seul moment de collectivité des prisonniers isolés, c'était ces instants volés. Les gars amenaient des verres, nous, le café. Du vrai, pas la ricorée pourrie vendue en cantine. L'un lavait deux assiettes, l'autre deux t-shirts. Les matons fermaient les yeux. L'isolement n'était pas encore une institution, surtout à la santé, où la vétusté était compensée par une plus grande sociabilité, une plus grande liberté de mouvement. On passait une heure à discutailler de tout et de rien, de l'actualité, des souvenirs de chacun. Au lavabo, des anciens, des as de la cambriole, les cheveux blanchis par les soleils pénitentiaires, côtoyait les genoux des premières bandes de braqueurs, comme les représentants de la banlieue sud ou les chimistes de la French Connection. L'ambiance était agitée d'histoires à deux balles, de mauvaises farces, d'éclats de rire, mais aussi parfois de bagarres à coups de poing. Ça n'allait jamais bien loin. Comme prisonniers politiques, on avait la possibilité hebdomadaire de cantiner des aliments à l'extérieur. On pouvait améliorer l'ordinaire, le nôtre, mais aussi celui des co-religionnaires. Par exemple, on achetait 6 énormes pots de Nescafé par semaine, alors qu'un seul comblait largement nos besoins. Le vrai café était bien évidemment interdit en détention, et depuis notre retour, les isolés de la première et de la deuxième division recevaient leur part de kawa. Et si un gars désirait un truc spécial, il nous le demandait. Pour la thune, ils s'arrangeaient entre eux. On recevait un mandat et on commandait. Nous ne faisions pas du trafic, bien que l'administration pénitentiaire le prétende. On ne tirait aucun bénéfice de cette entraide illégale. Bien sûr, si un voyou commandait 4 boîtes de foie gras, il nous en refilait une. Mais ça tenait plus du partage que du commerce. La cérémonie des bons de commande alimentaire devenait un sport cérébral aussi ardu que les mots de croisée du monde. On tentait des coups pendables. Certains marchaient, d'autres non. Mario a ainsi envoyé un bon intitulé « Une bouteille de sirop de menthe, Pimpermine Get ». Le lendemain, la belle bouteille verte se dressait sur notre table. Et le seul plaisir qu'on s'octroyait était le petit verre de Pimpermine l'après-midi en rentrant de la promenade. Après plusieurs semaines, le poteau rose fut découvert et le grand directeur nous convoqua. Du sirop de menthe à 27 degrés? Vous ne vous rendez pas compte? Et pourquoi pas du Bordeaux comme sirop de raisin? Où va-t-on comme ça? Will Hockey et la bande des DPS désiraient fumer des cigares, des vrais Havanes, des Puros. On les commentait par boîte entière, des Partagas ou des Monte Cristo numéro 4. Cette époque n'en finissait pas de se terminer, et une autre avait déjà commencé. Le franquisme était moribond, et par la même occasion, l'antifranquisme. Et déjà, nos contacts politiques nous préparaient à une autre guerre révolutionnaire. On tissait des liens avec des prisonniers politiques d'autres pays, des Allemands, des Italiens, et on débattait au fil d'interminables correspondances. Et on discutait beaucoup avec les activistes croisés dans les salles d'attente. Suite aux premières violences du mouvement autonome, ils tombaient pour quelques semaines, quelques mois, souvent des anciens Mao, comme ce jeune ayant tenté d'incendier la tribune officielle la veille du 14 juillet 1974. Cette action avait été préparée par un groupe qui fera partie plus tard d'Action Directe. Au quartier défilaient désormais tous les inculpés de la Cour de Sûreté de l'État, car notre grève de la faim avait entraîné une modification de la loi sur le statut des prisonniers politiques. Il devenait automatique, après une inculpation devant les juridictions d'exception. Bien sûr, l'administration pénitentiaire en modifia l'application pour restreindre nos droits. Des Bretons de plusieurs tendances du Front de Libération de la Bretagne, nationalistes comme un ancien sous-préfet de Vichy et d'extrême-gauche comme le jeune Jean-Charles, ancien soutien des Garis. Les premiers prisonniers politiques corses, dont le docteur Edmond Simeoni, après la prise d'otage d'Aléria et l'émeute armée de Bastia. Les premiers plastiqueurs des groupes prédécesseurs du Front de Libération Nationale de la Corse. Des maoïstes du Parti communiste marxiste-léniniste de France, poursuivis pour reconstitution de ligues dissoutes et qui se retrouvaient devant la Cour de Sûreté de l'État pour avoir bombé le nom de leur organisation interdite sur un mur. Des membres des comités de soldats, avec tout l'éclectisme militant d'une telle lutte démocratique, des crypto-trotsko, des mao nouveaux autonomes, et ceux de la cause du peuple, maintenus. Des anards de différentes chapelles, des poètes comme Tristan Cabral, des militants, des syndicalistes et des clampins. De simples clampins ramassés à la pelle dans les postes de police militaire. Et des espions de l'Est, des Bulgares, des Tchèques, un Roumain de la Securitate. 4 cellules du quartier des politiques donnaient sur la cour de promenade. Dans l'ordre, la cellule de Mario, la mienne, celle de Ratapignade, et enfin celle du Breton Jean-Charles. Et on passait des heures et des heures, debout sur les tuyaux de chauffage, à débattre, à boire un Nescafé, à écouter Mario gratter sa guitare confectionnée à l'arrache avec du carton et une planche de contreplaqué. À l'époque, la télévision n'avait pas encore fait son entrée dans les prisons. Mais depuis les émeutes de l'été 74, les détenus avaient la possibilité de cantiner des radios. L'ambiance des soirées aux fenêtres était garantie. On discutaillait, on blaguait, on riait. Les DPS participaient au débat en jouant aux échecs tard dans la nuit. Cavalier en B3, tour en C5. À tout bout de champ, Jubin et Mesrine se disputaient à propos des règlements de jeu qu'ils inventaient. Du coup, le vieil Antoine, un cambrioleur à l'ancienne, avait été intronisé grand juge. Le quartier des Isolés baignait d'une réelle camaraderie, une fraternité d'hommes seuls, d'hommes en souffrance, et refusant de se laisser formater, reflet de la société de l'après 68. Ces détenus, triés sur le volet, étaient politisés. Même superficiellement, caricaturalement parfois, mais fort d'une conscience de l'affrontement social. Je ne parle pas d'une prison mythique, d'un « c'était mieux avant ». La prison demeurait terrible dans ses ravages, comme dans sa gangrène des jours perdus, dans sa violence. Cependant, le corps des prisonniers faisait bloc, avec un mental de fer et une solidarité à toute épreuve. C'est à l'occasion des rigolades du soir que je connus Jacques Mesrine. Ce n'était pour moi qu'une imposante silhouette derrière la double grille de sa fenêtre au rez-de-chaussée de la 3e division. Et une voix forte et franche. Je ne savais rien de ses aventures, de sa cavale au Canada, ni de son évasion de Compiègne. Un soir vers 11h, un grondement de tonnerre secoua l'atmosphère de la cour de promenade. Les gars montèrent sur les tuyaux de chauffage pour guetter et quémander des nouvelles. Mesrine nous appela. « Oh, les gauchistes !» Et on répondit en cœur. « Oh, oh, le grand !»« Les gauchos, vous avez entendu l'explosion ? Ça n'a pas pété loin d'ici. Un bon coup de plastique ?»« De la dynamite !» précisa Mario. Il savait faire la différence entre les deux types de déflagration. Et pour nous, nul besoin d'entendre le boom, car au parloir de l'après-midi, on avait été prévenus de l'attaque imminente d'un bâtiment officiel proche de la santé. Depuis des mois, régulièrement, des attentats rappelaient nos conditions de prisonniers révolutionnaires. Il y avait eu quelques actions sympathiques, et un ou deux groupes accompagnaient la campagne de solidarité d'explosions plus ou moins puissantes. Quelques jours plus tard, comme tous les matins de la semaine, Charlie courait en rond dans la cour de promenade. Il cavalait à la manière des hamsters dans la roue de leur cage. Depuis une bonne demi-heure, le torse nu, il galopait à grande enjambée, évitant les groupes de prisonniers jouant aux cartes ou traçant leurs incessants allers-retours. D'un coup, il s'arrêta sous nos fenêtres et nous héla. On se rendit compte qu'il n'avait rien de particulier à nous raconter. Il souriait, sa peau luisait de sueur, et sa voix se chargeait d'une émotion étrange, comme une indicible joie mêlée à la souffrance. Il dit quelques mots, puis nous lança un signe de la main et disparut. L'après-midi, il s'évadait du palais de justice en prenant en otage le président du tribunal. Bien plus tard, j'ai repensé à l'intonation de la voix de Charlie ce matin-là. Moi aussi, j'allais tenter la cavale et me rapprocher du mur d'enceinte, avant que l'adrénaline ne fasse vibrer mon corps, allongé tout habillé sur la couche de ma cellule, juste cette réflexion sur le terme d'arrachage. Il convient parfaitement. On s'arrache à la prison, et c'est d'abord une surprenante souffrance physique, telle une déchirure douloureuse permettant la libération. Une renaissance sans péridurale. Nous étions parfaitement renseignés sur les travaux de construction des QHS, et comme un et un font deux, Mesrine savait qu'il en serait le premier client. La pénitentiaire allait présenter la note des émeutes de l'été 74 et des revendications satisfaites depuis. Les syndicats de Maton montaient au créneau pour hurler avec les loups de la presse réactionnaire. Durant ces mois, une cabale politico-médiatique s'organisa contre le caïda des prisons 4 étoiles et la haine de classe produisit la plus monstrueuse détention depuis le bagne. Au début, le ministère évoqua le cas d'une poignée de détenus dangereux et bien sûr, moins de deux années plus tard, pour un oui ou pour un non, un refus, la trouille d'un directeur, une position trop à gauche, des centaines de gars étaient expédiés dans le circuit des QHS. Mesrine nous quitta au printemps 76 à l'ouverture du quartier spécial de Fleury-Mérogis. Et plus de 150 prisonniers de la première division se mirent spontanément en grève de la faim. La grève se prolongea une dizaine de jours. On avait signé notre communiqué NAP, Noyau d'action des prisonniers, en référence à l'organisation napolitaine de lutte armée Nuclei Armati Proletari, surgit lors des grandes luttes des prisonniers italiens. À l'extérieur, les camarades utilisèrent le même sigle NAP pour réaliser plusieurs attentats, dont l'un contre le siège du syndicat des matons FO, fer de lance dans la campagne pour l'ouverture des QHS. Au hasard de mes détentions, j'ai ainsi participé à la première lutte des prisonniers contre les QHS et à la dernière, en mai 81, quand une trentaine de QHS de Fresnes ont lancé le dernier mouvement pour la fermeture immédiate des quartiers spéciaux. Une lutte qui allait aboutir, quelques mois plus tard, à leur fermeture définitive. Voilà. Du coup, peut-être on peut réexpliquer ce que c'est un QHS. Moi, je me disais en lisant ça, et je me disais que c'était quand même un passage super chouette pour dire, pour expliquer ce que tu disais sur les rencontres entre les prisonniers qui pouvaient se passer, quoi. Particulièrement, du coup, pour les prisonniers, je sais pas comment on peut dire, quoi, les prisonniers qui étaient arrêtés pour terrorisme, ou à l'époque, les prisonniers politiques, quoi, qui, du coup, se faisaient passer des infos d'un pays à l'autre, etc., quoi. Enfin, la situation qu'on vient de lire, elle est un peu folle, parce qu'elle arrive 100 ans après celle que toi, tu décrivais à Sainte-Pélagie, et de voir que, voilà, il se passe toujours un peu les mêmes réseaux de résistance et d'organisation au sein des prisons, c'est quand même fort, quoi.
Ouais, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, il y a un lien entre les prisonniers internationaux, plusieurs pays qui arrivent à correspondre, et on voit que la distinction prisonnier politique et prisonnier de droit commun, en fait, elle n'est pas si vraie que ça, quoi.
Ouais.
Enfin, avec les avantages qu'ils ont de droit de prisonnier politique, en fait, ils arrosent tous les prisonniers de droit commun qui leur demandent... Enfin, voilà, il y a toute une solidarité qui s'établit à partir de ça. Ils ne profitent pas juste d'un privilège qu'ils ont. Voilà, ils en font profiter à tous dans la prison.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de statut formel de prisonnier politique. Il y a juste... Il y a juste des prisonniers qui sont là, et comme on sait pourquoi ils sont là, on rattache leur lutte à des positions politiques, et du coup, peut-être ils morphent plus que les autres, ou un truc comme ça. Il n'y a pas vraiment de statut, quoi. Enfin, il n'y a plus de statut, de toute façon, quoi.
Ouais, les prisonniers... qu'on passe ce statut luttes, de politique, mais voilà, qu'on en fait pour des raisons plus politiques, classiques, sont mis dans les mêmes quartiers pour tout ce qui est antiterrorisme, par exemple les basques islamistes sont dans les mêmes quartiers, les prisons.
On va peut-être écouter notre rock japonais.
Ah ouais, alors, tu veux le monter? Ouais. Bah pour finir un peu sur toutes ces formes de débrouille qu'on trouve en prison, on va parler un peu de sexualité après cette chanson. Donc la chanson, ça introduit un peu le thème parce que ça parle de la masturbation dans les prisons.
C'est en anglais, c'est... non? On va pas comprendre en fait.
Ouais,
mais c'est un groupe de rock japonais, c'est ça? Comment il s'appelle?
The Vapors.
The Vapors.
Et c'est Japanese Turning. C'est une expression pour parler de masturbation.
Donc c'était The Vapors qui nous chantait une chanson à propos de la masturbation en prison. Alors on s'est dit que c'était parfait pour enchaîner sur la boîte à outils qu'on va consacrer à comment baiser dans un parloir. Alors, en gros, toutes les informations, on les a trouvées dans un bouquin qu'on a découvert cette semaine et qui vient de sortir et qu'on a trouvé vraiment chouette, qui s'appelle « Guide à l'usage des proches de personnes incarcérées ». Et du coup, c'est un petit guide où on retrouve plein de conseils sur comment obtenir un permis de visite pour quand on est proche d'un prisonnier, sur comment on fait pour le linge, qu'est-ce que c'est les différentes interdictions, comment se rendre au parloir, enfin, en gros, tous les détails pratiques quoi, qui concernent les proches de personnes incarcérées. Et il a été écrit par des gens justement qui sont proches de personnes en prison, quoi. Et du coup, qui sont échangés un peu leurs petits trucs pratiques, etc. quoi. Du coup, il y a et des rappels de par rapport à la loi, qu'est-ce que tu as le droit de faire ou pas, et des conseils sur comment la détourner et comment y résister. Ils expliquent même des trucs sur comment faire passer des trucs en prison. Enfin, ils expliquent plein de choses, en fait. C'est vraiment chouette. Vous pouvez trouver la totalité du texte sur permisdevisite.noblogs.org. C'est l'adresse qui est sur le bouquin. Du coup, je pense qu'il y a tout le PDF qui doit être dessus. Et si vous voulez obtenir directement le bouquin, peut-être vous pouvez écrire soit à l'ABC, c'est-à-dire à l'Anarchy Black Cross, qui est un collectif sur Dijon qui soutient les prisonniers, du coup, qui fait de la lutte contre les prisons. Et du coup, vous pouvez leur écrire à abcdijon@free.fr. Sinon, vous pouvez aussi écrire à la Caisse de Solidarité, parce que tout à l'heure, j'ai présenté la Caisse de Solidarité et j'ai pas dit comment la contacter. Donc, vous pouvez écrire à caisse-de-solidarité, sans accent sur le E, @brassicanigra.net. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la sexualité au parloir ? Donc, d'abord, ils nous réexpliquent que c'est interdit dans les prisons et que, du coup, on peut être puni pour ça, etc. Et que, bien sûr, au parloir, on n'a absolument pas le droit de baiser. Mais ils expliquent quand même, en fait, que dans certaines prisons, il y a plein de gens qui se sont rendus compte que c'était quand même possible, en fait, parce que, je sais pas, elles sont mal surveillées ou, bon, il y a peut-être des tolérances par rapport à ça, je sais pas. En tout cas, il y a des moyens de s'organiser pour résister à cette interdiction-là, quoi. Et du coup, ils nous disent « Ayez de l'imagination dans vos tenues, jupes, collants troués, etc. » Ils nous disent pas grand-chose de plus, mais on suppose que, du coup, bon, bah, il faut un peu essayer de se planquer et que, du coup, il faut un peu adapter sa tenue pour ça, quoi. Et ensuite, ils expliquent surtout des choses, en fait, sur les contraceptions. Ils expliquent, par exemple, que quand t'es une femme en prison, t'as pas le droit... Enfin, c'est très difficile de se faire prescrire des contraceptions. Et que, par contre, les préservatifs sont en libre accès dans les infirmeries des prisons. Le problème, c'est que le détenu, il est fouillé à l'entrée du parloir. Et que si on le trouve avec un préservatif sur lui pour aller dans le parloir, il va se faire défoncer. Et que du coup, c'est à la personne visiteuse, quoi, plutôt d'essayer d'amener les moyens de contraception, quoi. Et alors, ils disent que les papiers d'emballage des préservatifs, comme ils sont en métal, enfin en alu ou je sais pas quoi, ils risquent de faire sonner les portiques. Et que du coup, ça risque de causer des petites scènes un peu chiantes avec les gens qui fouillent à l'entrée des parloirs. Et alors, du coup, ils disent de soit enlever l'emballage, soit ils conseillent, en fait, d'utiliser des préservatifs féminins. Parce qu'on peut les poser plusieurs heures à l'avance et du coup s'introduire dans la prison avec le préservatif sur soi et du coup évidemment incognito, quoi. Voilà. Et puis il termine en disant que c'est toujours possible de demander à faire un test de VIH quand on est incarcéré. Bon, même si c'est moins rigolo que le reste de l'explication. Donc voilà, mais du coup, on n'a pas eu plus de témoignages que ça, ou je sais pas quoi, mais bon, si jamais vous avez des choses à raconter là-dessus, bientôt il y aura un blog sur lequel on pourra dire tout ça. On va faire un blog pour l'émission. Voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver ce texte et du coup toutes les autres explications sur permisdevisite.noblogs.org. Voilà.
Ouais, ça donne déjà quelques pistes à explorer.
Ouais.
Alors, aujourd'hui, on a un peu insisté sur le fait que la prison, ça pouvait permettre de développer tout un tas de formes d'existence différentes. Mais on pense quand même aux gens qui sont au mitard. Et on va leur dédier une petite chanson qui s'appelle Jailbreak de AC/DC. Qui parle d'une évasion.
Et puis on va se quitter là-dessus, quoi.
Voilà.
Et la semaine prochaine, vous retrouvez Terrain Vague, nos copains. Et nous, on est là dans 15 jours. Voilà, ciao.
friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks from the chain gang. I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a
jailbreak.
And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a
jailbreak.
Scream!